Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 303, ressusciter la thèse mythiste. Bonjour tout le monde, alors comme le titre l'indique, cet épisode va consister en une courte discussion de certains aspects de la thèse mythiste qui sont inspirés en fait par certaines discussions que j'ai eues sur Facebook à ce sujet. Et voilà, on va discuter de ça après. Mais j'ai un certain nombre de housekeeping, hein, de choses à faire avant d'attaquer vraiment le cœur du sujet de l'épisode, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas faites. Entre autres, je dois remercier un certain nombre de personnes qui ont contribué au Patreon. Donc merci, un tout grand merci à Ikari, Cubitus et Christophe Le Baron et Quentin pour avoir contribué au Patreon de Scepticisme Scientifique. Un tout grand merci à vous. Et c'est vrai qu'on a passé le milestone qui fait que je vais organiser très prochainement des Google Hangouts. Enfin, j'envisageais un par mois. Je dois encore le faire, oui, effectivement. Un peu, parce que ça fait longtemps, j'en avais organisé il y a quelques années des Google Hangouts, j'aimais bien ça, mais ça prenait du temps, et puis ça fait un long, faut que je revoie comment ça fonctionne maintenant, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai fait. Et voilà, on a passé un deuxième milestone. Le premier milestone, c'était 4 épisodes du balado par mois, et le deuxième, c'était donc organiser des Google Hangouts sceptiques, et donc je vais un peu travailler là-dessus dans les semaines qui viennent. J'aimerais bien en faire un déjà en septembre là. Mais comme vous le savez certainement, je suis assez occupé vu que je dois absolument terminer la rédaction de ma thèse pour le mois prochain. Donc pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu en overwork, enfin trop de travail. Mais j'ai le temps quand même, je trouve quand même le temps d'enregistrer cet épisode pour un peu parler de tout ça. Et alors la deuxième chose, après avoir remercié tous les gens qui ont contribué au Patreon récemment, que je voulais aborder, c'était par rapport à l'épisode de la semaine dernière. J'ai un correctif à faire, enfin c'est un semi-correctif en fait. La bande Podcast Science m'a dit, mais ouais, sur Twitter, mais ouais, mais on édite nos podcasts comme des fous, enfin c'est Nicotube qui le fait, et c'est vrai en fait. C'était assez stupide de ma part la semaine dernière, la façon dont j'ai présenté ça dans le dernier épisode. C'est vrai que j'ai raconté l'anecdote, que j'avais déjà raconté avant d'ailleurs, pour parler de la question de l'editing. Et j'ai pas trop réfléchi, parce que la façon dont j'ai présenté ça était assez... c'est vrai que c'était pas la bonne façon de le présenter, parce que bien entendu l'anecdote était vraie à l'époque, mais elle l'est plus du tout maintenant, et j'ai complètement oublié de le préciser. Bon, de toute façon je m'excuse de l'avoir fait, évidemment, à Nicotube qui fait un super boulot d'editing. On m'a bien expliqué que c'était lui qui le faisait, et puis bien entendu je sais très bien que maintenant Podcast Science fait pas mal d'éditions, d'editing sur leurs épisodes. Je le savais quand je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'en me réécoutant lors des questions et réponses pour les 300e anniversaire du balado, ça sonnait comme si Podcast Science était toujours comme ça, n'éditait toujours pas ses épisodes. En fait, l'anecdote que je racontais, elle remontait à perpète, hein, comme toutes les anecdotes que je racontais. On était un peu en mode blast from the past, hein, les souvenirs du passé. Et la fameuse anecdote concernant Podcast Science, ça remonte à loin. Hein. Enfin, Podcast Science, faudrait leur poser la question combien de temps ils existent, mais... pratiquement aussi vieux que moi, je pense. Donc, j'étais là un an avant, je pense, donc il doit au moins avoir 5 ans. Et c'est vrai que l'anecdote que je raconte, c'était, je pense, la première année ou très très tôt. Et bien sûr, déjà, l'équipe de Podcast Science a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Et c'est plus vraiment les mêmes gens qui s'en occupent. Hein. Et puis, aussi, évidemment, je veux dire, les podcasts, il s'améliore avec le temps, donc tout ce qu'on raconte sur un podcast d'il y a 5 ans. Mon podcast était vraiment foiré il y a 5 ans, au niveau qualité sonore, etc. Donc c'est vrai que j'ai raconté cette anecdote, parce que à l'époque ça m'avait frappé, mais c'était absolument pas une critique de Podcast Science, dont je suis assez fan. Et, Et aussi, bien entendu, j'ai malheureusement donné l'impression que c'était toujours le cas aujourd'hui, mais non, bien sûr que non. D'ailleurs, je pense que. Je trouve que Podcast Science fait un super boulot, soyons clairs. En fait, c'était assez marrant, parce que c'est vrai qu'en réécoutant, je trouvais que je donnais la mauvaise impression sur ça, mais c'est parce que. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui me paraissent évidentes. Je pense que, je veux dire, Podcast Science, c'est un des meilleurs podcasts en français. Si vous écoutez Scepticisme Scientifique, je pense que la grande majorité des auditeurs écoutent déjà Podcast Science aussi. En fait, c'est vrai que ça mérite d'être dit, hein. J'aurais dû le dire à ce moment-là, évidemment. C'est certainement. Cette anecdote-là, c'était juste un souvenir comme ça, mais ce n'est certainement pas une critique de Podcast Science et ça ne reflète absolument pas l'état actuel. Alors, et donc, c'est vrai qu'en plus, ils font techniquement souvent un bien meilleur boulot que le mien. Parce que c'est vrai que moi, mes compétences techniques, par contre, elles sont un peu dérisoires. Enfin, voilà quoi. Et c'est vrai qu'au niveau de l'editing, en plus, c'est comme j'ai tendance moi-même à moins en moins éditer. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, la façon dont je racontais ça donnait la mauvaise impression. Et donc, je m'excuse auprès de Nicotube. C'était pas ça que je voulais dire. C'était lié aussi au fait que c'était une étrange soirée. Ce soir-là, donc c'était pour le 300e anniversaire, 300e épisode du balado et le 6e anniversaire. On avait organisé à Sceptique au pub et on a eu donc la conférence en elle-même avec moi, Jérémy et Thomas, que vous avez pu écouter il y a 3 semaines, je pense. Et puis un moment de questions et réponses. Mais l'astuce, c'est que il y avait que 3 personnes dans la salle, hein, donc on s'est encore pris un de ces mythiques râteaux comme on s'en prend parfois à Sceptique au pub. À la fois c'était bien et pas bien. Pourquoi c'était bien? Parce que quand on invite quelqu'un, particulièrement quelqu'un de célèbre, qu'on se prend un râteau, enfin qu'on a une salle quasiment vide, c'est vraiment très désagréable pour tout le monde. C'est vrai qu'on l'avait eu la saison avant, on avait terminé avec Nadia Gertz, qui est quand même quelqu'un d'assez célèbre en Belgique, hein, en Belgique, qui a écrit toute une série de bouquins et tout, et puis elle vient et. Je crois qu'on était 4 dans la salle, moi y compris. On était vraiment très mal à l'aise, quoi. Hein. Donc on invite quelqu'un qu'on pense relativement, que nous on admire et qu'on trouve relativement célèbre, et puis il y a 4 personnes dans la salle, on est très mal. Tandis que là, évidemment, pour ce 300e épisode, il y avait comme moi, Thomas et Jérémy, et c'est pas grave, de toute façon l'épisode on pouvait l'enregistrer, on l'aurait enregistré autrement chez Thomas ou chez Jérémy ou chez moi. Bon, là, on était à la fleur en papier doré, là, on se réunit d'habitude. Donc, c'était moins grave. Bon, ben, d'un autre côté, c'est vrai que, en rigolant, je disais aux autres, 6 ans de balado, 3 fans, ça fait un fan tous les 2 ans, c'est un bon rythme. Bon, c'est vrai que j'étais quand même un peu déçu. Et une des conséquences que ça a eu, c'est que c'est vrai que j'avais planifié de faire la conférence et puis une séance de questions-réponses. La séance de questions-réponses, elle était pas aussi bonne que je l'aurais voulu, non pas à cause des 3 fans qui étaient là dans la salle, que je remercie grandement et qui sont super, je les adore, mais bon, simplement, quand il y a que 3 personnes dans la salle, forcément, les questions et réponses n'étaient pas aussi actifs ou vivaces que je l'aurais souhaité. Et c'est pour ça qu'on est un peu parti. Voilà, enfin bref, ça c'est pour justifier le truc, mais enfin, de toute façon, c'est inexcusable, j'aurais dû faire plus attention. Et en plus, ça montre à quel point j'édite pas les épisodes. Parce que si je m'étais réécouté, j'aurais dû me dire, qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtises là? Bref, sorry Nicotube, et je ne raconterai plus de bêtises. On sait que tu fais un boulot formidable sur Podcast Science à éditer le podcast. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je voulais justement dire, oui, c'est vrai, parce que, en fait, moi, ça me paraît évident, mais je pense que j'ai pas vraiment eu l'occasion, mais. Rappeler un peu les podcasts que j'aime bien en français. Parce qu'il n'y en a pas tellement hein, que des podcasts que j'écoute ou que je suis hein, en français. Donc, il y a dans les podcasts que j'écoute, il y a Podcast Science, que je recommande vivement, qui existe depuis 5 ans, donc presque aussi vieux que Scepticisme Scientifique. Moi, je trouve qu'ils font un boulot formidable de vulgarisation scientifique en matière de vulgarisation scientifique. Ils font certainement même pratiquement parfois un meilleur boulot que moi, mais enfin bon, mon podcast n'a pas pour vocation exclusive de faire de la vulgarisation scientifique, mais pour moi, Podcast Science, c'est le meilleur podcast de vulgarisation scientifique. Si on veut de la vulgarisation scientifique pure, c'est le podcast à écouter, quoi. Voilà, ils sont d'ailleurs pour moi un peu. Ils ont réussi très tôt à faire ce que moi j'ai échoué à faire, c'est-à-dire à constituer une équipe en plus. Ce qui est vraiment gai, c'est qu'ils sont un groupe de personnes bon, qui a évolué au cours du temps, etc. Et pour moi, podcastéant, c'est justement un peu le Skeptic's Guide to the Universe en anglais. Hein. Même si ils n'ont pas forcément toujours le label sceptique comme ça, comme Skeptic's Guide peut l'avoir de manière proéminente. Je veux dire, c'est un podcast qui devrait intéresser tous les sceptiques. Hein. Un autre podcast que j'aime bien, c'est évidemment Lisez la science. Moi, j'aime bien le format, je trouve ça vraiment très chouette. Simplement parce que comme moi, je suis quelqu'un qui aime bien lire des livres aussi. J'ai toujours bien beaucoup aimé lire des livres. Je trouvais que l'idée de couvrir les livres de vulgarisation scientifique, c'est vraiment une super idée. Je trouve que le projet derrière, en fait, est vraiment top. Parce que voilà, si on s'intéresse, si on est sceptique, on lit des livres de vulgarisation scientifique, on n'est pas nécessairement un scientifique soi-même, et puis même si on l'est, on n'est pas spécialiste de tous les domaines, c'est impossible. Donc moi j'aime beaucoup lire de la vulgarisation scientifique aussi. Et c'est un podcast qui inspire à lire des livres, qui conseille des livres, moi je trouve ça vraiment génial. Et puis le fait qu'il parle d'autres livres aussi, enfin cette intersection entre science et littérature, ça me parle beaucoup. Et le troisième podcast français que j'ai actuellement dans mon feed de podcasts que j'écoute, je veux pas dire que je les écoute religieusement, ça serait pas vrai, mais en fait je les suis sur Facebook, je les suis sur Twitter, et je les ai dans mon feed simplement, enfin dans mon iTunes quoi, pour savoir quand ils sortent un nouvel épisode, ben je regarde toujours ouais, quel est le sujet qui couvre cette fois-ci, est-ce que ça a y a une intersection avec le scepticisme ou pas, et en fonction voilà j'écoute ce qui m'intéresse quoi. Et le troisième podcast que je recommande, donc je recommande Podcast Science, Lisez la science. Le troisième qui est beaucoup plus récent, c'est Anthropodcast, le podcast sur l'anthropologie, voilà, que je recommande vivement. Et c'est un podcast de vulgarisation anthropologique. Et c'est vrai que je dois avouer que des trois que je viens de mentionner, c'est celui que je préfère pour le moment, mais c'est pas une question de qualité ou de travail ou d'editing des gens. Je trouve que les personnes à la barre de ces trois podcasts font de l'excellent travail. D'un point de vue préparation, technique et présentation des choses. Ben, simplement, pour l'instant, je suis à fond dans Anthropodcast parce que c'est un nouveau podcast, relativement nouveau. Et c'est vrai que c'est une question d'affinité intellectuelle. Je m'intéresse vraiment beaucoup à l'anthropologie. Et je trouve que voilà, donc c'est plus spécifique sur un domaine de la connaissance qui m'intéresse vraiment particulièrement. Donc voilà, c'est un peu plus ciblé, quoi. C'est vrai que podcast science et lisez la science par définition, il brasse très très large. Voilà, donc en fait, c'est mes recommandations en tant que podcast francophone. Voilà, c'est ceux que j'ai en fait que j'ai tendance à suivre. Il y en a un autre que je suis, mais qui n'a pas trait au scepticisme scientifique, qui est dans ma liste de podcasts, qui est le podcast dont vous êtes le héros, un podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Voilà, bon, comme ça, vous savez ce que j'ai dans mon iTunes en français à l'heure actuelle et que je recommande vivement. Oui, j'en ai pas plus parce que c'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts, mais voilà, enfin, j'écoute des mix des tas de choses et je n'écoute pas que des choses en français. Enfin, j'écoute certainement pas que des choses en français. J'écoute aussi des choses en anglais et en japonais. Et c'est vrai que quand je vivais au Japon, j'avais pas besoin tellement d'écouter des choses en japonais, mais comme je suis de retour en Belgique depuis quelques années, pour maintenir mon niveau, j'écoute pas mal de choses en japonais. Sinon, c'est vrai qu'en anglais, qu'est-ce que j'écoute? Je suis en train de regarder qui soit intéressante pour les sceptiques. Parce qu'en fait, c'est vrai que ma quantité de podcasts sceptiques a diminué avec le temps. Parce qu'à une époque, j'en écoutais vraiment, vraiment énormément. Maintenant, ça, c'est un peu. Ça s'est un peu calmé, quoi, puisque j'essaie d'écouter des podcasts sur le jeu de rôle, des podcasts sur la culture japonaise, des podcasts en japonais. Donc forcément, ça me prend du temps d'écoute. Podcast sceptique en anglais que je lis à l'heure actuelle, que j'écoute à l'heure actuelle. Rationally Speaking, donc parler rationnellement. C'était le podcast où il y avait Massimo Pigliucci avant, mais il est parti. Donc maintenant, il n'y a plus que Julia Galef. C'est un podcast qui parle beaucoup de cognition et de comment raisonner convenablement, une approche plus philosophique du scepticisme scientifique, et franchement j'adore. Ouais, Rationally Speaking, c'est mon favori, toute catégorie, qui est suivi de très près par Monster Talk, qui est un podcast consacré à la cryptozoologie d'un point de vue sceptique. Monster Talk, malheureusement, le créateur, enfin l'hôte de Monster Talk l'a mis en break pendant un an parce qu'il est en train d'écrire un livre, mais en espérant qu'il revienne bientôt. Et voilà, ça c'est mes deux grands podcasts que j'écoute vraiment en anglais. De manière assez connexe, j'aime bien encore écouter de temps en temps sur la Bible, évidemment, de Bible Geek. Voilà, l'astuce du Bible Geek, c'est qu'il sort des épisodes à un rythme effréné. Et c'est très dur de suivre tout ce qu'il produit en termes d'épisodes. Et en plus, voilà, il couvre des choses. En fait, parfois, si on n'est pas théologien, c'est un peu pointu. Mais j'aime vraiment bien Robert M. Price. Je suis vraiment très fan. J'ai lu plein de trucs de lui. Il fait aussi de Lovecraft Geek, qui est un podcast consacré à Lovecraft. Lovecraft Geek, ça je l'écoute systématiquement. Et The Human Bible, c'est aussi avec Robert M. Price. Moi j'aimais vraiment bien The Human Bible, mais bon, ça ils l'ont plus ou moins arrêté. C'était produit par le Center for Inquiry, c'était Robert M. Price pour les nuls, où il faisait beaucoup d'introductions, débats théologiques, etc. Mais bon, c'était le bon niveau pour moi, quoi. Parce que le Bible Geek Show, souvent, c'est. Ça vole très très loin, quoi. Très très haut dans les sphères de théologico-historico-criticisme. Bref. Donc, ce que je recommande en anglais, ce que j'écoute actuellement en anglais en termes de podcast, Rationally Speaking, le meilleur podcast sceptique à mes yeux pour le moment. Monster Talk, s'il se décide, en espérant qu'il se décide de reprendre rapidement son émission, enfin bon, qu'il revienne l'année prochaine sans faute. Bible Geek Show, sur la Bible avec Robert M. Price. Et de temps en temps, quand il fait un épisode vraiment qui m'intéresse, j'écoute Skeptoïd aussi, Brian Dunning. C'est quand même pas mal. Bah, tout le reste, je n'écoute plus en fait. Ça vous donne une idée en fait de ce que j'écoute comme podcast en français et en anglais sur le scepticisme scientifique. En japonais, j'en connais pas sur le scepticisme, j'en ai pas encore trouvé. Je crois qu'il n'y en a pas encore. Ça serait cool d'avoir un podcast sceptique en japonais. Voilà mes recommandations, tous les podcasts que je trouve être des choses qui méritent vraiment d'être écoutées. Très bien. Ben voilà, et puis maintenant que ça c'est fait, j'aimerais bien en arriver au sujet dont je voulais brièvement parler aujourd'hui, qui était la question de la thèse mythiste. Donc j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur la thèse mythiste, un avec Marc Allais qui remonte à loin. Et un autre d'une conférence sceptique Bruxelles Sceptique au Pub avec Bruno Van de Castel qui avait fait une émission, une conférence dessus que j'ai aussi diffusée. Et donc, la thèse mythiste, c'est l'idée qu'il n'y aurait pas eu de Jésus historique. Donc, voilà, qu'il n'y aurait jamais eu une personne qui se soit nommée Jésus et qui soit à l'origine de la religion chrétienne. Et donc récemment, sur Facebook, je parlais de ça à propos de la page Wikipédia sur la thèse mythiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis tombé sur la page d'un blog de quelqu'un qui critiquait la page Wikipédia sur la thèse mythiste. Et c'est vrai qu'au cours des années, j'ai essayé de contribuer à cette page sur la thèse mythiste à un très modeste niveau. Parce que justement, j'écoutais Robert M. Price ou je lisais Richard Carrier. Je me disais, bah oui, je vais mettre quelques références, etc. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait une très forte guerre d'édition. Vous savez qu'il y a des pages Wikipédia où il y a des guerres d'édition assez intenses. Donc des gens qui surveillent la page pour la modifier très rapidement une fois que vous avez fait une modification. Et donc c'est des gens qui sont vraiment très contre la thèse mythiste. Bon, je dois avouer que j'ai pas essayé très récemment. Mais enfin, en regardant la page, en préparant cet après-midi, enfin cet enregistrement, elle n'a pas beaucoup changé, quoi. Et donc c'est une page qui est largement critique de la thèse mythiste. Parce que les gens qui s'y livrent à une guerre d'édition sont des gens qui considèrent que la thèse mythiste est quelque chose de fort critiquable. Et donc voilà, c'est difficile, c'est très difficile sur le Wikipédia en français de mettre quelque chose de positif concernant la thèse mythiste. Et donc j'étais tombé par hasard sur un blog qui disait grosso modo ça en donnant des exemples. Et donc j'avais posté le lien sur la page Facebook et quelqu'un, enfin voilà, je disais, ben oui, enfin je mentionnais le problème et je disais, ben oui, bon, il faut quand même pouvoir admettre que la thèse mythiste, c'est la position minoritaire dans le monde académique sur l'existence de Jésus, quoi. Donc la grande majorité des historiens pensent qu'il y a eu un Jésus historique. Bah, donc je voulais un peu expliquer ce point-là. En fait, finalement, la thèse mythiste prouvait. C'est difficile à prouver de dire on va prouver qu'il n'y a pas eu de Jésus historique. C'est quelque chose qui, en tant que sceptique, en tout cas, moi, ça me parle quand je lis les ouvrages sur la thèse mythiste. Je ne dirais pas que je suis convaincu par la thèse mythiste. Je dirais, à l'heure actuelle, comme Robert M. Price d'ailleurs, je dis je suis agnostique sur la question. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a eu un Jésus historique ou pas. Moi, je pense que à l'heure actuelle du débat, c'est une position très raisonnable à avoir. Je ne sais pas, avec les éléments que j'ai en main, s'il y a eu un Jésus historique ou non. Mais c'est vrai que l'idée qu'il n'y a pas eu de Jésus historique, ça me parle ben, justement en tant que sceptique. Et aussi justement par rapport, ben, ça se rapproche de certaines positions que j'ai dans d'autres domaines. Hein. Par exemple sur le phénomène OVNI. Hein. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que ce soit correct pour Jésus. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont transférables. Mais c'est des arguments qui me parlent. Moi, je peux imaginer qu'il n'y ait pas eu de Jésus historique. Ce qui, pour beaucoup de gens, est inimaginable. Mais je vais un peu essayer d'expliquer où situe l'enjeu du débat. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me sens attiré par l'hypothèse de la thèse mythiste, mais je suis quand même prudent à son égard. Bah justement parce que bon bah voilà il peut avoir un biais de confirmation enfin tous les on sait bien on a déjà souvent parlé du biais de confirmation et je me méfie d'une thèse que je trouve comme ça très attractive donc je pense qu'il faut l'aborder avec prudence quoi comme il faut si vous êtes vraiment très immédiatement attiré par cette thèse l'épisode ici je me dis bah, c'est pour vous dire prenez un pas de recul et essayez de voir qu'est-ce qui peut poser problème avec l'idée de la thèse mythique, mythiste. Ceci dit, la première fois que je l'ai entendue, j'étais aussi complètement surpris, hein, parce que comme vous le savez, j'ai grandi dans des milieux chrétiens où l'idée qu'il n'y ait pas eu de Jésus historique est impensable. Donc la première fois que quelqu'un a dit il se pourrait qu'il n'y ait pas eu un Jésus historique, je tombais des nues, quoi. Hein, et c'était d'ailleurs Paul-Éric Blanc-Rue, le célèbre zététicien du cercle zététique hein, qui après ça s'est converti à... Donc je sais plus si c'était à quelle époque mais avant sa dérive il a défendu la thèse mythiste et donc je pense que c'est chez lui que j'ai entendu l'idée pour la première fois sans je pense pas avoir publié avoir lu son bouquin. Je crois qu'il a publié un bouquin sur le sujet que j'ai pas lu. J'ai essayé de l'avoir sur le podcast pour parler de ça, mais il avait dit non, parce que maintenant il est trop occupé avec ses autres sujets. Mais enfin, bon, vous vous souvenez que Paul-Éric Blanc-Rue, en plus, c'est quelqu'un de très controversé, à raison, hein, parce que, évidemment, il s'est converti à l'islam. Donc, est-ce que maintenant, il défend toujours la thèse mythiste? J'en sais rien. C'est un peu bizarre que quelqu'un qui défend la thèse mythiste convertisse à l'islam. Parce que souvent, les arguments qu'on peut tenir pour Jésus, on peut souvent tenir des arguments similaires pour Mohamed, évidemment. Et puis bon, vous savez qu'il fréquente des milieux peu fréquentables. Voilà. Enfin, c'est de là que j'ai dû l'entendre pour la première fois. J'étais très surpris, évidemment. J'étais un peu en état de choc, culture choc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais enfin, en écoutant les arguments, surtout de Romer M. Praz, il y a des arguments qui me parlent vraiment. Mais pourquoi prendre? Parce qu'il y avait des gens qui étaient étonnés que je dise, ben oui, le consensus, c'est qu'il y a eu un Jésus historique. Bon, évidemment, j'ai pas de chiffres. Hein. Il faudrait avoir un sondage de tous les académiques travaillant sur Jésus. Puis en plus, il y a des poches. Hein. Est-ce que vous prenez tous les théologiens ou seulement ceux qui travaillent sur la période historique de Jésus ou les historiens qui travaillent? Donc, on pourrait en plus faire des sondages contrastés. Ben, ce serait intéressant que ça soit fait, mais j'ai jamais vu de tels chiffres passer. Hein. Par contre, il y a eu des sondages très intéressants, par exemple du style combien de philosophes sont athées, combien de philosophes sont théistes, etc. Mais j'ai jamais vraiment eu des chiffres exacts. Mais bon, c'est vrai que c'est un argument des apologistes généralement. William Lane Craig utilise cet argument énormément en disant le consensus des spécialistes de Dieu. Et j'ai. C'est vrai que j'ai jamais vu de chiffres, mais j'ai pas de mal à le croire. Je veux dire, si vous lisez les livres qui parlent de Jésus, mis à part les quelques rares auteurs que moi j'aime bien, qui sont des défenseurs de la thèse mythiste, style donc Robert M. Price, Richard Carrier, bah, ils se comptent sur les doigts d'une main, hein. Les gens qui défendent vraiment la thèse mythiste, à un niveau académique aussi, hein. Je parle pas vraiment de gens qui défendent ça, mais à un niveau non académique, parce que là, évidemment, ça augmente fortement le nombre, hein. Même Michel Onfray écrit parfois sur la thèse mythiste, en faveur de la thèse mythiste. Je parle ici de gens qui font des publications dans des revues scientifiques, enfin, des revues d'histoire ou des revues de théologie, à comité de lecture, hein, comme d'hab. Donc c'est un problème de consensus des experts. Et c'est vrai qu'aussi, ce qu'il faut mettre comme bémol, c'est que ce consensus des experts est certainement très influencé par le fait, par différents facteurs, dont le fait que la plupart des gens qui travaillent sur les questions historiques liées à la Bible vont être des chrétiens. Surtout, enfin, si vous travaillez sur l'historicité de Jésus en général, voilà, c'est comme d'habitude, si vous travaillez sur un sujet, bah, c'est que vous avez un. Les chrétiens sont motivés à travailler sur ça, mais si vous êtes un athée, faire une thèse de doc sur Jésus, sur l'histoire de la période de Jésus, ou est-ce qu'il y a eu un Jésus historique, ou sur toutes ces questions-là, ça va être beaucoup plus rare. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais ça va être. Voilà, Robert M. Price, c'est un théologien, un gars qui a fait la théologie, qui est maintenant athée. Richard Carrier, lui, c'est un athée qui a fait l'histoire, mais. Je veux dire, ces gens-là sont l'exception, pas la règle. La règle, c'est que vous allez plutôt être chrétien, et donc ça va influencer votre position. Donc, je me doute, enfin, pour moi, c'est pas difficile à croire que ce consensus en faveur d'un Jésus historique soit influencé par cette donnée sociologique-là. Bon, on est tous des êtres humains, donc les gens qui, même des historiens qui travaillent sur ces questions, s'ils ont un background chrétien, forcément. Ça va influencer leur position sur le sujet. Parce que si on dit que Jésus n'a pas existé, ça fout quand même un fameux coup, quoi. Mais au-delà de ça, au-delà de cet argument-là, je pense que le fond du fond, c'est que l'argument fondamental pour l'idée qu'il y ait eu un Jésus historique, je pense, hein, enfin bon, de ma lecture amateur de la littérature, c'est de dire, ben, ça explique au mieux l'apparition de la religion chrétienne. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, le succès de la religion chrétienne dans l'Antiquité a été phénoménal. Assez rapidement, bon voilà, le christianisme s'est répandu, et puis a pris le dessus, a détruit les mystères, etc. Enfin, le succès du christianisme est d'une certaine façon incontestable, quoique. Et en gros, ça donne. C'est un argument qui se fonde sur voilà, l'origine du christianisme et son expansion, sa propagation extrêmement rapide. Et ça c'est un argument classique des apologètes aussi. La propagation du christianisme, sa diffusion est une sorte de, peut être considérée comme une preuve de sa véracité. Mais bon, à minima, ça c'est évidemment un argument d'apologiste, mais à minima, ça devrait prouver l'existence d'un Jésus historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée. L'explication la plus simple, hein, au terme du rasoir d'Occam, c'est de dire ben, il y a vraiment eu quelqu'un à l'origine du bazar. Alors évidemment, les débats des spécialistes, ça va pas être, ne sont pas sur, ne portent pas sur est-ce qu'il y a eu quelqu'un à l'origine, mais qui était-ce et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et là encore, bon, ma position, c'est qu'on peut rien en dire en fait, on n'en sait rien. Mais si vous lisez des théologiens, vous allez voir des théologiens qui vont vous présenter Jésus comme un guérisseur. Des théologiens qui vont dire Jésus c'était en fait un révolutionnaire et en gros ils cherry-pick, hein, ils prennent des passages dans le Nouveau Testament et ils donnent leur version de qui est Jésus. Et même les rationalistes du 19e, ils faisaient ça, ils disaient il y a eu un Jésus historique, il a même fait grosso modo ce qu'on lui attribue dans la Bible, mais simplement il n'a pas fait les miracles, c'était un être humain normal, mais grosso modo l'histoire qu'on nous raconte dans la Bible est plus ou moins vraie, quoi. Bon, ça non, on en est loin, quoi. Et d'ailleurs, Bertrand Meeust, que vous connaissez pour ses livres sur les ovnis et le paranormal, est en train de travailler sur un nouveau livre. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Si je le vois en librairie, je l'achèterais, mais je... oui, des fans, je pense, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur le site de l'Institut Métapsychique International et des conférences qu'il y a données, l'idée que Jésus était une sorte de médium qui réalisait évidemment des... Puisque, mais eux, je pense que les médiums avaient des pouvoirs authentiques, les grands médiums du 19e, début 20e, hein. Et donc que Jésus était une sorte de médium, quoi. Donc en fait, c'est d'ailleurs un défaut classique, c'est-à-dire que les théologiens... ou Bertrand Meilleux dans le cas que je donne, projette sur Jésus ce qu'ils ont envie que Jésus soit. C'est un problème classique. En fait, Jésus, c'est une sorte de d'image sur laquelle on projette quelque chose qu'on a envie, quoi. Or, Jésus, c'était un très grand philosophe. Jésus, c'était un révolutionnaire qui se battait pour les pauvres. Jésus, c'était un guérisseur. Jésus, c'était un médium. En fait, d'un point de vue méthodologique, le fait de lire le Nouveau Testament et de chercher dedans ce qu'on a envie d'y trouver, c'est toujours assez bancal. C'est pour ça que moi, personnellement, ma position, c'est que... Dès qu'on essaye de me dire Jésus c'était blablabla, je suis extrêmement sceptique de toutes ces affirmations. J'aurais tendance à dire on ne sait rien dire sur Jésus. S'il y a eu un Jésus historique, quoi. Voilà. Mais donc, voilà. L'idée, l'argument de fond, c'était de dire l'expansion du christianisme provient du fait qu'il y a eu un personnage historique. Et évidemment, il y a du pour et du contre dans cet argument, mais c'est vrai que c'est un argument qui, je pense, devrait avoir du poids dans vos considérations sur le sujet, parce que c'est quand même un argument qui tient bien la route, je pense, en fonction du rasoir d'Occam, en fait. Pourquoi? Bah parce que, qu'est-ce que vous observez quand on observe l'apparition de sectes à l'heure actuelle? De sectes dans le terme péjoratif, hein, dans la guerre contre les sectes, parce que, bon, qu'on distingue des religions. Les religions, c'est bien, les sectes, c'est pas bien. Non, tout ça, c'est des religions et tout ça, voilà, quoi. On devrait, enfin bon, ça c'est la différence religion-secte. Il faut lire Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes. Mais ce qu'on appelle les sectes habituellement, bah, il y a un gourou, quoi. Mais, donc c'est un fondateur. Par exemple, L. Ron Hubbard pour la scientologie, Claude Vorion pour l'église israélienne. Et donc ces groupes ont des fondateurs. Et ces fondateurs sont à l'origine du mouvement. Et puis une fois que le fondateur disparaît, ben le mouvement évolue à partir de là, soit il périclite, soit il continue. Les Mormons, par exemple, ils ont continué après la disparition de leur créateur. Mais on voit que l'explication la plus simple, c'est d'avoir un individu au départ qui fonde le groupe, une sorte de gourou, on dirait maintenant, ou de fondateur. Une personne, quoi. Et donc, si on transpose ça, c'est beaucoup plus facile de se dire, d'un point de vue, encore une fois, du rasoir d'Occam, de se dire, il y a eu un individu, il y a eu un individu à l'origine du christianisme qui a fait un certain nombre de choses, et c'est ça qui a généré la boule de neige qui a amené à la création du christianisme, à l'expansion du christianisme. Et je pense que, voilà, en fonction du rasoir d'Occam, c'est finalement une explication qui a du poids. C'est un argument qui a du poids dans la discussion, je pense. Je le trouve relativement convaincant. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que le rasoir d'Occam soit toujours le meilleur outil. Pourquoi? Je vais prendre un exemple dans le phénomène OVNI. Les ufologues vont utiliser le rasoir d'Occam. On va dire il y a deux explications alternatives. Soit il y a des extraterrestres qui visitent réellement notre planète, et ce que les gens rapportent, c'est ce qu'ils voient vraiment. Donc les gens disent je vois des soucoupes volantes, et l'explication c'est quoi? Bah, c'est qu'il y a des soucoupes volantes qui nous visitent. Inversement, on va dire non, il n'y a pas de soucoupes volantes. En fait, c'est des tas de mécanismes extrêmement élaborés, sociologiques et psychologiques, culturels, tout ça qui génère une illusion que le phénomène existe. Bah, entre la première et l'explication et la seconde, les ufologues vont dire, ben oui, la première est favorisée par le rasoir d'Occam. Auparavant, j'aurais certainement contre-argumenté ce point-là en disant, oui, mais c'est parce que tout n'est pas égaux, mis à part ailleurs, c'est-à-dire que, en fait, appliquer le rasoir d'Occam, c'est super dur, quoi. Mais ma défense par le passé, ça aurait été de dire, l'hypothèse socio-psychologique est beaucoup mieux intégrée dans nos connaissances, et en fait, il faut que les deux le rasoir d'Occam ne s'applique que quand les deux modèles explicatifs ou les deux hypothèses explicatives sont parfaitement équivalentes, tous les autres aspects pris par ailleurs, quoi. Oh, l'hypothèse extraterrestre n'est pas équivalente parce qu'elle invoque des choses non prouvées scientifiquement. Enfin, voilà, ça c'est ma défense classique, je ne veux pas rentrer dedans plus que ça. Mais dans le fond, c'est lié toujours au rasoir d'Occam. À l'heure actuelle, je me dirais, mais en fait, non, peut-être tout simplement, la meilleure explication n'est pas la plus simple dans ce cas-là. Non, en fait, il se fait qu'il faut beaucoup de mécanismes complexes pour générer le phénomène ovni tel qu'on le connaît. Et l'explication la plus simple, la plus évidente, qui est qu'on est réellement visité par des extraterrestres, n'est juste pas la bonne hypothèse explicative. Ou le bon modèle explicatif. Voilà. Ben, en fait, avec Jésus, c'est un peu le même coup, quoi. Je comprends bien l'argument du rasoir d'Occam. Et dans ce cas-là, il me semble relativement convaincant. Ben, lié au fait que, justement, c'est ce qu'on observe avec les nouveaux mouvements religieux, dans le style l'Église israélienne, etc. On voit qu'il y a, ou Adamski, enfin, on voit que ces groupes ont un fondateur. Mais bon, ça ne veut pas dire que, dans le cas de la religion chrétienne, ça s'est passé nécessairement comme ça. Mais ça donne une plausibilité à l'idée qu'il y a eu une personne au départ. Bon, évidemment, cette personne aurait pu être quelqu'un d'autre que Jésus, ça c'est toujours. Hein. Enfin, on pourrait imaginer que cette personne soit un Jésus X ou Y, quoi, dont on ne sait finalement rien. Ou pas grand-chose. Ou... Enfin, bon, moi je ne saurais rien dire avec certitude sur ce Jésus historique, quoi. Un autre argument à prendre en considération dans ce domaine, c'est que c'est aussi c'est l'évémérisme. L'évémérisme, c'était l'idée dans l'Antiquité, donc c'est un historien de l'Antiquité qui s'appelait Évémère, et qui disait que sa théorie, évidemment, est extrêmement plausible. Et je dis qu'il était, voilà, il a dit les dieux de l'Antiquité, auxquels tout le monde croit, là, le peuple croit dans les panthéons de dieux, hein, Jupiter, Hercule, enfin, Héra, etc., toute la bande, hein, vous les connaissez. Ces dieux-là, en fait, originellement, c'était des individus historiques qui ont été divinisés. Donc voilà, il y a eu réellement un, je sais pas moi, un Jupiter ou un Zeus. Hein. C'était un personnage historique, par exemple un roi très puissant, il y a très très longtemps. On a oublié les données historiques qui allaient avec lui, mais en fait, son existence a été avérée par le fait que les gens croient dans ce dieu maintenant. Et donc tous les dieux s'expliquent. De cette manière-là. Bah, évidemment, à l'heure actuelle, le consensus n'est plus du tout ça. Hein. On pense plus du tout. Non, les mythes sont juste ça, des mythes. Et en ufologie, il y a le même problème. On parle du néo-évémérisme. L'idée, c'est que les religions s'expliqueraient par les extraterrestres. Donc, en fait, Zeus ou Jupiter, ça aurait été un extraterrestre ou un hybride humano-extraterrestre, comme par exemple Raël prétend être un humano-extraterrestre. Mais on voit bien que ces explications-là, elles posent problème. Je ne pense pas qu'il y a vraiment eu un Zeus historique. Tout comme s'il y a une ambiguïté au niveau de Jésus, je ne pense pas du tout qu'il y a eu un Abraham historique. Il y a des histoires qui sont juste ça, des histoires, et des personnages dans les mythes qui sont juste des mythes, quoi. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure Jésus, ça ne serait pas juste aussi un mythe dont on a tendance, par habitude de penser, à considérer qu'il s'explique au mieux de manière évémériste, c'est-à-dire en pensant, ben oui, ben en fait, il y a un personnage historique derrière ça, quoi. Voilà une autre donnée à mettre dans cette sorte d'équation. Bon, je commence déjà à être long, mais je vais clôturer, mais je pense que le problème à ce stade-ci, ramener à la vie, pour faire la résurrection de la thèse mythiste, le problème principal de l'hypothèse mythiste, c'est qu'il faut pouvoir écrire un narratif plausible. Bon, évidemment, alors, ça a toujours un problème d'être juste ça, un narratif. Hein. Mais enfin, il faudrait au moins pouvoir faire ça, quoi. Expliquer comment ça se serait déroulé, avec les éléments historiques qu'on a à l'heure actuelle, l'apparition du christianisme, sans qu'il y ait de Jésus historique. Comment c'est apparu, quoi? Évidemment, l'histoire classique, enfin, donc il y a des auteurs les auteurs qui défendent la thèse mythiste, ils essayent de jouer à ce jeu-là, hein, Richard Kyrier particulièrement. Il y avait un Jésus mythique, hein, une entité surnaturelle, le Christ, le Jésus-Christ, hein, un Christ qui existe, donc qui existe dans les sphères supérieures, hein, un peu dans une approche gnostique. Et puis ce Jésus-Christ, à un certain moment, il y aurait des histoires qui se serait développé autour de lui, des mythes et des légendes, qu'il aurait peu à peu changé en un personnage historique. Quelqu'un de beaucoup plus une entité métaphysique, mais quelqu'un qui aurait marché sur Terre et qui aurait eu la double substantiation. 100% humain, 100% Dieu et 200% Robocop, enfin quelque chose comme ça. Bref. Il faut pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des tentatives. Hein, je veux dire, enfin, tous les auteurs qui défendent la thèse mathiste essayent de développer ce genre d'histoire de comment ce processus aurait pu se dérouler. Mais alors, c'est très lié à qu'est-ce qu'on sait du début du christianisme. Alors, évidemment, l'astuce, c'est que du tout début du christianisme, c'est que la Bible nous donne une histoire du tout début du christianisme. Hein, ça s'appelle les Actes des Apôtres. Mais donc, ça suppute aussi, ça fait il faut présupposer, donc souvent, les défenseurs de la thèse mythiste, ils vont considérer que les actes des apôtres ne sont pas particulièrement fiables non plus, que ce n'est pas non plus une histoire correcte de comment les événements. Mais évidemment, si on part du principe que les actes des apôtres sont corrects, les actes des apôtres racontent le développement du christianisme, et alors c'est plié, quoi. Forcément, il y a eu un Jésus historique, mais enfin, là, je simplifie un peu le débat, mais j'essaie de vous montrer les différents enjeux, quoi, à prendre en considération. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire, mais mon idée générale, c'est si vous êtes un athée, à qui la thèse mythiste parle particulièrement? Ne défendez pas de manière absolue qu'il est certain qu'il n'y a pas eu de Jésus historique, parce que c'est pas vrai, je veux dire. Je pense qu'il faut être vraiment très prudent, et je pense qu'il faut mettre beaucoup de bémols, et voilà, essayer d'envisager les contre-arguments. Le contre-argument principal dont j'ai parlé dans cet épisode étant la propagation du christianisme. Bon, évidemment, au-delà de ça, William Blaine Craig, il va dire qu'il y a un consensus, un de ses arguments favoris que j'entends tout le temps chez lui, c'est qu'il y a un consensus historique autour de la véracité de la résurrection. Que la résurrection, enfin, donc l'histoire de la résurrection, hein, que les femmes seraient allées au tombeau, qu'elles n'auraient pas trouvé Jésus dans la tombe, voilà, et que donc l'événement historique de la résurrection, tel que rapporté par. Ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Pourtant, il dit tout le temps, c'est un de ses arguments classiques, quoi. La grande majorité des historiens considèrent. Déjà parce que les quatre évangiles sont très contradictoires sur comment s'étaient passés les événements. Donc les quatre évangiles se contredisent de manière très flagrante sur cette histoire de la résurrection. En fait, ça se base sur des arguments qui tiennent pas fort la route, comme il aurait été impossible dans un cadre juif d'imaginer un dieu qui serait mort sur la croix, parce qu'évidemment ça aurait été inconcevable dans ce contexte culturel-là. Je veux dire, ça serait un dieu qui souffrirait d'un énorme défaut, et donc c'est impossible que ce soit une fiction, quoi, en gros. Parce que voilà, parce que à cause du contexte culturel, ça n'aurait pas pu être imaginé. Je ne défends pas l'argument aussi bien que William Lane Craig le ferait, en tout cas, ce que je peux vous dire juste là-dessus, c'est pour ceux qui écoutent un peu du William Lane Craig, je trouve l'argument vraiment pas convaincant, parce que, un, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'il y a un consensus scientifique massif parmi les historiens sur l'idée que l'événement précis, le récit de la résurrection, est un événement historique. Je vois pas trop sur quoi ça se baserait. Voilà, et l'idée que ce serait lié, enfin que ça ne peut pas être une fiction inventée parce que c'était inconcevable dans l'esprit judaïque à l'époque, dans la culture juive à l'époque, ça me paraît vraiment très bancal comme argument. Enfin, c'est pas très convaincant comme argument parce que. D'une certaine façon, je veux dire, l'existence du récit dans le Nouveau Testament prouve que c'était inventable puisque ça a été inventé. Enfin, c'est un raisonnement circulaire, merci d'avoir joué. Je trouve que c'est très très dur de postuler, de dire. Bon, évidemment, Richard Carrier contre-argumente cet argument en montrant qu'il y a eu des idées de Dieu qui meurt et qui ressuscite auparavant, y compris dans la culture juive, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est tout argument qui part du principe on sait ce qui est. Ce que croyaient les juifs du premier siècle, exactement suffisamment pour être certains de ce qu'ils étaient incapables d'imaginer dans le cadre de leur culture, ça me paraît extrêmement bancal. Ben voilà, je suis un peu long, mais donc c'était un peu mon épisode de critique de la thèse mythiste. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est soyez prudents quand vous avancez ça. Et oui, je pense qu'il y a un consensus assez massif. Sur l'idée qu'il y a quand même bien eu un Jésus historique. Maintenant, ce qu'on peut en dire, ça, c'est un autre problème. Il y a Barthermann qui a écrit un bouquin. Barthermann, c'est un historien athée spécialiste de Jésus, et c'est un livre où il défend l'idée qu'il y a eu un Jésus historique, et il attaque les défenseurs de la thèse mythiste en les présentant comme des conspirationnistes du 11 septembre, Donc, si vous voulez avoir ce genre d'argument, allez les voir là, pour beaucoup plus de détails que ce que j'ai dit dans cet épisode. Voilà, donc c'est juste simplement, enfin, c'est vraiment une sorte de mise en garde. Défendez la thèse mythiste, mais en tout cas avec beaucoup de bémols. Soyez conscient de sa position. Après, maintenant, il se pourrait que le consensus shift et que les défenseurs de la thèse mythiste trouvent des arguments particulièrement frappants, etc. Hein. C'est des débats qui évoluent, mais à l'heure actuelle, soyez prudent dans ce que vous dites. C'était Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.